France Inter, le 18-20.
En jargon juridique, on appelle ça l'ordonnance de 45 parce qu'elle date de 1945, le 2 février 45, relative à l'enfance délinquante. C'est là que commencent les textes sur le sujet. Un texte fondateur amendé 39 fois depuis la Libération. Il a beaucoup été question de le réformer depuis. Cette fois, il prend, on va dire, un coup de neuf qui a fait réagir en tout cas sur certains points quasi instantanément. Alors, deux points essentiels, ce fameux seuil d'irresponsabilité pénale à 13 ans, on va y revenir, et une accélération de la procédure pénale pour les mineurs et surtout une simplification. Le deuxième point est à peine évoqué au fond, alors qu'il mériterait qu'on y regarde sans doute de beaucoup plus près. C'est même peut-être le plus intéressant, coupé en deux. Je schématise volontairement, coupé en deux en gros la procédure, une déclaration de culpabilité d'abord et puis du temps pour la sanction après. Le premier point dont le politique s'est emparé ne dit pas qu'on laisse impunis tous les mineurs au-dessous de 13 ans, il nous met en conformité avec les conventions internationales et n'exonère personne de responsabilité, mais nous permet aussi de poser toutes ces questions à plat. Quelle justice pour les mineurs? Comment juger les enfants? Quelles sanctions? Quelle efficacité? Quel progrès sont nécessaires, puisque consultation il y a, eh bien, allons-y, et à vous de jouer, soyez les bienvenus.
Fabienne Synthès, le téléphone sonne.
Fabrice, c'est vous le premier, bienvenue Fabrice.
Merci, tout d'abord merci de me recevoir à l'antenne.
Bonsoir.
Bonsoir. J'interviens donc sur la responsabilité des enfants en dessous de 13 ans. Mon point de vue là-dessus, c'est que tout dépend de... du milieu familial dans lequel ils sont éduqués, et donc il faut quand même à un moment ou à un autre un peu responsabiliser les gens, mais surtout les adultes par rapport à ça. Mais c'est vrai que j'intervenais dans un premier temps par rapport aux moyens qui sont mis actuellement à disposition de la justice et qui manquent cruellement, notamment pour l'application de toutes les peines ou les placements que les juges peuvent donner. Mmh. Et actuellement, on manque cruellement de places dans les foyers. Et il y a des enfants dont les demandes de placement mettent un an à être appliquées, ce qui fait que malheureusement la situation s'aggrave.
Et donc ce que vous dites, en gros, changer, d'accord, mais enfin, si on appliquait déjà ce qui existe, peut-être que ce serait plus simple, si je comprends bien votre question.
Exactement. C'est pourquoi est-ce qu'on ne donne pas actuellement plus de moyens à la justice, notamment à la justice pour enfants qui se sent un peu délaissée par rapport aux autres justices, de façon à ce qu'on applique les lois qui sont déjà votées.
Merci beaucoup Fabrice, il y a beaucoup de choses dans votre question, ce qui nous permettra de balayer très largement. Merci beaucoup pour y répondre et pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Dominique Attias est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate, membre du Conseil de l'Ordre, vous êtes ancienne vice-bâtonnière du barreau de Paris. Et bonsoir à vous Laurent Gébler. Vous êtes en duplex depuis France Bleu Gironde à Bordeaux. On les remercie, nos amis de France Bleu. Vous êtes juge des enfants, président de l'Association française des magistrats de la justice et de la famille. D'ailleurs, c'est intéressant. Je dis juge pour enfants spontanément. Je me trompe. Enfin, je veux dire, c'est une mauvaise manière de dire les choses.
C'est une excellente manière de dire les choses. Le juge, c'est un juge pour enfants, un juge des enfants et certainement pas des mineurs.
Voilà. Ben voilà. C'est intéressant que les choses soient bien cadrées comme ça. Il y avait beaucoup de choses dans la question de Fabrice. Je vais le faire dans l'ordre en fait. On va revenir sur cette affaire d'irresponsabilité parce qu'il faut effectivement réexpliquer les choses correctement aux gens. Dominique Attias, mais Fabrice nous dit, est-ce que tout ça ne dépend pas du milieu familial? Moi la question qui me vient du coup c'est, est-ce qu'on regarde différemment un enfant qui est face à vous quand on est juge pour enfants, lorsque son milieu familial est plus favorable, est-ce que ça joue en fait ou pas?
Alors ça c'est probablement le juge des enfants qui va répondre, mais je peux déjà vous dire, allez-y, bien évidemment que non. Un enfant est un enfant, quel que soit son milieu familial, et parfois nous sommes très surpris que lorsque nous avons des parents, allez, disons-le, bon chic, bon genre, qui tout d'un coup se trouvent confrontés à la justice des mineurs et qui découvrent qu'elle n'est pas si laxiste que ça.
Laurent Gébler, est-ce que vous dites la même chose que votre consoeur Dominique Attias, milieu familial ou pas, ces choses n'entrent pas du tout en ligne de compte?
Vous ne serez pas surpris si je rejoins tout à fait Dominique Attias sur cette question. On a devant nous des jeunes de tous milieux familiaux, même si majoritairement on trouve des jeunes qui sont issus de milieux défavorisés. Nous, notre première question lorsqu'on voit un jeune qui passe à l'acte, c'est de se demander qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est joué auprès de ce jeune et dans cette famille pour avoir conduit à ce passage à l'acte? Les facteurs peuvent être multiples. Ils peuvent venir d'origine familiale, ils peuvent d'origine sociale, d'origine psychologique, ça peut être lié au quartier. Voilà, donc notre premier souci va être d'essayer de comprendre ce qui se passe pour ensuite pouvoir appliquer la loi et appliquer donc des mesures éducatives en priorité et éventuellement des sanctions.
C'est intéressant, je trouve que la question de Fabrice vienne là-dessus. En fait, c'est Laurent Gébler, peut-être que c'est l'idée qu'on s'en fait, la fausse idée qu'on s'en fait d'emblée, en fait, en fonction des enfants et de leur famille. C'est intéressant de pouvoir tordre le cou à ce genre d'idées reçues.
Oui, je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, pour ces enfants-là, notamment les plus jeunes, hein, on se retrouve avec parfois aujourd'hui des poursuites pour des enfants de 11 ans, de 12 ans, parfois moins même, ça peut arriver. Toute la question aujourd'hui dans l'ordonnance de 45 est celle du discernement. C'est-à-dire que ces enfants, parfois, ils peuvent tout à fait comprendre qu'ils font quelque chose de mal. Quand ils vont voler, quand ils vont agresser quelqu'un. En revanche, toute la question derrière, c'est est-ce qu'ils disposent de la maturité suffisante pour pouvoir se mettre des barrières, pour pouvoir comprendre la portée de leurs actes, pour être en capacité de se mettre à minima à la place de la victime. Et c'est là qu'est toute la question du discernement.
C'est la question d'Emeline, je vais vous la poser directement, Monsieur Gébler, et puis à Dominique Attias aussi. Directement, elle nous dit, on parle effectivement de discernement au moment de juger des mineurs, mais au fond, qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce qu'on peut le résumer à la manière de faire la différence entre légal et illégal, par exemple? Ça va bien loin que simplement bien et mal. C'est quoi le discernement? Parce que c'est bien ce que vous avez en face de vous, ce que vous devez percevoir assez vite.
Alors le discernement n'est pas du tout une notion juridique. Hein. Le discernement, c'est ce que dit le petit Larousse et le petit Robert, c'est l'art de juger sainement des choses, d'avoir le sens critique. Comment est-ce que effectivement
comment on applique ça à un enfant?
Un jeune enfant de 11, 12 ans, même 13 pour moi, peut avoir le sens critique lorsqu'on sait, neurosciences vous disent qu'un cerveau humain n'est fini d'être fabriqué qu'à l'âge de 25 ans. Donc imaginez à aussi jeune âge.
Mais on sait, c'est ce que disait Laurent Gébler à l'instant, il sait, alors on va dire des choses simples, un gamin qui vole par exemple au lycée, à l'école ou ailleurs, il a bien conscience que c'est pas bien, enfin je veux dire, que donc c'est répréhensible on va dire. Cette conscience-là elle existe, y compris avant 13 ans, non?
Alors entre c'est pas bien et c'est un acte pénal, vous risquez 3 ans de prison, même divisé par deux, ou même plus s'il y a une circonstance, comme on dit, aggravante parce que vous êtes avec un petit copain et que vous risquez 5 ans, il y a quand même une sacrée différence.
Donc je vous entends, Dominique Attias, et je vous ai lu là-dessus en fait. Vous auriez préféré d'ailleurs que le 13 ans aille à 14 ans?
Ben écoutez, oui, parce que pourquoi pas nous mettre exactement comme nos voisins européens, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, ce ne sont pas des pays spécialement originaux. Chez eux, avant 14 ans, un enfant n'est pas responsable pénalement.
Laurent Gébler, là-dessus, est-ce que ça change quelque chose selon vous, cet éventuel 13 ans ou 14 ans? Et aussi, c'est le sens d'ailleurs d'une partie des questions que j'ai là autour de moi et qui nous viennent très nombreuses. Au fond, de toute façon, qu'est-ce qui change réellement, puisqu'on a appris, on sait qu'un enfant n'était de toute façon pas susceptible d'avoir une sanction pénale avant d'avoir 13 ans. Donc est-ce que ça vous paraît une bonne barrière, on va dire, ces 13 ans-là?
13 ans, c'est la réalité du droit aujourd'hui, à savoir qu'en effet, quoi qu'il ait fait, il faut le savoir, dans l'ordonnance du 2 février 1945, même avec toutes les modifications qu'elle a connues, un mineur de moins de 13 ans n'encourt aucune sanction pénale.
Laurent, donc, je suis pas tout à fait d'accord quand même. Les sanctions éducatives, c'est quand même une peine puisqu'elle est inscrite sur le casier judiciaire, même sur le B1 d'un jeune à 10 ans. Donc pour moi, ça n'est pas anodin.
Les enfants encourent des mesures éducatives ou des sanctions éducatives qui, en effet, peuvent pendant quelque temps être inscrites sur le casier judiciaire. Quand je dis qu'ils n'encourent aucune peine, c'est-à-dire aucune peine d'amende, aucune peine d'emprisonnement.
Encore heureux.
Et c'est vrai que cette question du discernement, excusez-moi, mais le problème, c'est justement que personne n'est capable de dire exactement ce qu'est le discernement. Et donc, c'est pour ça que la Convention internationale des droits de l'enfant a prévu que les États doivent fixer cet âge. Fixer cet âge, c'est aussi une garantie que de très jeunes enfants ne vont pas faire l'objet d'un procès pénal.
Et qu'est-ce qui se passera pour vous lorsque, pour que les choses soient très claires, parce qu'on a beaucoup entendu tout et son contraire, en fait, depuis que le seuil a été dit, j'allais dire fixé, pas encore, mais a été dit au moins par la garde des Sceaux. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez en face de vous un gamin qui a 11 ans, qui a 12 ans et qui a fait quelque chose de grave? Votre marge de manœuvre, Laurent Gébler, quelle est-elle en fait?
Alors aujourd'hui, la justice des mineurs dispose d'un autre outil qui est extrêmement important, que n'ont pas d'ailleurs beaucoup de pays européens, qui est ce qu'on appelle l'assistance éducative. Mmh. L'assistance éducative, c'est la possibilité, dans un champ civil, le point de départ, c'est la mise en danger du mineur. On peut très bien considérer que le fait qu'un jeune enfant enfreigne la loi de façon répétée constitue une mise en danger et justifie des mesures d'assistance éducative. Donc elles existent à partir de la naissance jusqu'à 18 ans, ces mesures. Et tout l'intérêt de ces mesures, justement, c'est qu'elles vont permettre un travail avec les parents. Mmh. L'assistance éducative, c'est ça, des mesures dites de milieu ouvert avec des interventions éducatives qui, comme l'a dit l'auditeur tout à l'heure, vont devoir pouvoir exister de façon suffisamment prégnante auprès de ces familles, éventuellement des mesures de placement. Mais on va rester dans des mesures éducatives, ce qui est de toute façon déjà le cas aujourd'hui. C'est le champ qui changera, puisqu'on sera à ce moment-là dans le domaine de la protection de l'enfance et non plus dans le domaine de l'enfance délinquante.
C'était la deuxième partie de la question de Fabrice également, qui parle effectivement lorsqu'il s'agit de placer un enfant, notamment au foyer, qu'il y a ce chiffre-là, je ne sais pas si vous allez le confirmer ou pas, en gros, les attentes avant de pouvoir entrer en foyer, faute de place, sont parfois d'un an et plus. C'est quelque chose que vous confirmez? Vous savez ça, Dominique
Alors, Cattès? C'est extrêmement clair qu'il y a des régions qui sont vraiment défavorisées. Les juges des enfants, dans leur ensemble d'ailleurs, avaient lancé un appel pour justement expliquer que leurs décisions n'étaient pas exécutées. Mmh. Non seulement les décisions ne sont pas exécutées, mais nous n'avons plus assez de lieux diversifiés pour permettre de prendre en charge les enfants. Les enfants en conflit avec la loi, ils se retrouvent avec deux possibilités. Centre éducatif fermé, détention. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait des moyens beaucoup supplémentaires qui soient accordés à la justice des mineurs pour avoir des placements diversifiés en fonction de la personnalité des enfants et permettre aux magistrats de prendre des décisions qui seront exécutées par des éducateurs. Tout le monde crie pour dire la justice des mineurs n'a pas suffisamment de moyens.
Qu'est-ce qui se passe, Laurent Gébler, si vous avez en face de vous un gamin dont vous décidez le placement en foyer? Il n'y a pas de place en foyer. Le centre éducatif fermé, c'est quand même une autre mayonnaise qu'un simple foyer. Donc, est-ce qu'il va de toute façon dans le centre fermé? Ce qui peut, vous allez me le dire, avoir des conséquences qui sont importantes, ou est-ce qu'il est laissé entre-temps à sa famille ou dans la nature? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de place? Comment ça se passe, en fait, pour vous?
La priorité, je dirais, au départ, ce sont ce qu'on appelle les mesures de milieu ouvert, surtout avec des jeunes enfants. Parce que la question des centres éducatifs fermés ne se pose qu'à partir de l'âge de 13 ans et souvent au-delà. Mmh. La question, c'est pour des jeunes enfants qui commencent à s'inscrire dans des processus de délinquance. C'est d'être en capacité, à un moment, de mettre en place autour de lui et de ses parents des équipes éducatives, mais qui vont être présentes et qui vont intervenir rapidement. Ça, c'est la priorité, mettre le paquet, être capable de mettre le paquet sur ces jeunes-là, d'abord dans le champ de l'intervention dite en milieu ouvert, dans les familles. Ensuite, peut se poser éventuellement la question du placement, c'est-à-dire lorsque l'enfant doit être retiré de son milieu familial. Et là, normalement, la loi prévoit un grand nombre de possibilités de prise en charge, bien avant d'en arriver au centre éducatif fermé. Les centres éducatifs fermés, il ne faut pas l'oublier, ils sont d'abord conçus pour des multirécidivistes qui constituent un danger aussi pour la société, qui doivent aussi être protégés, malgré eux, de leur passage à l'acte répétitif.
Natacha, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes du côté des éducatrices, vous, et on sait bien que juge pour enfants, éducateurs, tout ça, tous ces gens travaillent évidemment ensemble les uns avec les autres. On vous écoute.
Oui, alors je travaille effectivement à la protection judiciaire de la jeunesse. Je voudrais juste préciser que je suis syndiquée au SNPES PJJ.
D'accord.
C'est
bien de le dire.
Parfois
c'est bien de savoir d'où vous parlez.
La parole. Mmh. Exactement. Donc, ce que j'avais envie de dire, c'est que d'abord, un enfant qui commet des actes de délinquance est avant tout un enfant en danger. Que c'est une mise en danger supplémentaire et que c'est surtout des jeunes qui, en général, ont été déjà suivis dans le cadre de la protection de l'enfance. Pour la grande majorité d'entre eux, en tout cas pour les cas les plus difficiles. Ce que j'avais envie de dire ce soir, c'est que la réforme l'a annoncé, pour nous, elle va pas améliorer la situation de ces jeunes, elle va surtout pas faire baisser la délinquance des mineurs, puisque ces jeunes, ce dont ils ont besoin, c'est d'éducation et c'est de prise en charge éducative. Et qu'une des réponses qui est sortie dans le cadre de l'ordonnance de la réforme de l'ordonnance de 45 et dans la loi de programmation justice qui a été publiée là au mois de mars, c'est la création de 20 nouveaux centres éducatifs fermés. Et les centres éducatifs fermés, pour ce qu'on en voit à nous, sont pas réservés aux récidivistes. Loin de là. C'est-à-dire qu'on n'a pas de place en structure éducative parfois, qu'il y a une banalisation de ces structures et qu'on est loin de la prise en charge éducative dans ces structures et qu'il faudrait vraiment de la création de foyers éducatifs et de et de renforcement des services de milieu ouvert, effectivement.
Merci beaucoup, Natacha, pour cette remarque. Je vous voyais dire oui, Dominique Attias, oui, c'est dans cette direction qu'on serait plus efficace.
Évidemment, et je suis tout à fait d'accord avec cette éducatrice. Il arrive que des primo-délinquants soient envoyés parce qu'ils sont un petit peu connus de la justice, mais qu'ils n'ont jamais été condamnés encore, soient envoyés en centre éducatif fermé, ce qui est une catastrophe. Ça n'était pas l'objet des centres éducatifs fermés et c'est absolument contre-productif.
Pourquoi c'est une catastrophe le centre éducatif fermé? Je vais dire peut-être une hérésie. Est-ce que au fond, le centre éducatif fermé, pour certains, est une sorte d'antichambre de la prison? Est-ce qu'il y a ce danger-là dans un endroit aussi clos qu'un centre éducatif fermé?
Bien évidemment, puisque si vous voulez, d'abord, c'est une alternative à l'incarcération, que en cas de délit commis à l'intérieur ou même fugue, il n'est pas exclu qu'il soit ensuite incarcéré. Que de surcroît, imaginez un gamin de 13 ou 14 ans qui a commis, certes, un acte répréhensible, mais qui n'est absolument pas ce qu'on peut appeler un délinquant enfermé dans la délinquance, se retrouve à l'autre bout de la France, parce que, bien entendu, il n'y a pas suffisamment d'endroits, privé de sa famille, privé de sa maman, comme ils vous disent souvent, et après être passé en garde à vue pendant 24 ou 48 heures, plus 20 heures supplémentaires avant de voir un juge, et qu'il arrive déglingué en centre éducatif fermé, comment voulez-vous que ces centres éducatifs fermés puissent prendre en charge ce genre de gamin? C'est d'abord l'éducatif, et pour moi, les centres éducatifs fermés, surtout quand ils n'ont pas de projet, et certains n'ont pas de projet, ne sont pas des lieux adaptés pour des enfants en difficulté.
Laurent Gébler, là-dessus, sur la différence effectivement entre ces fameux foyers et le centre éducatif fermé, est-ce que c'est le dernier recours, le centre éducatif fermé, au fond? Et parfois, vous avez la contrainte d'y mettre des jeunes que vous auriez préféré mettre ailleurs, en fait, vous-même?
Oui, bien sûr, ça nous arrive. J'ai encore eu récemment la situation qui s'est produite, à savoir que aucune place n'étant disponible dans des établissements éducatifs classiques, la seule proposition qui a été faite était la proposition d'un centre éducatif fermé. Alors, ceci étant, sur les centres éducatifs fermés, bon, ils ont été créés maintenant il y a une vingtaine d'années. L'idée de départ avait un sens, c'est-à-dire d'être capable à un moment de mettre en 2002, voilà, de mettre le paquet aussi sur la prise en charge de ces jeunes les plus difficiles, dont personne ne voulait. Donc d'avoir une équipe éducative qui soit une équipe éducative renforcée, des moyens éducatifs renforcés, des activités qui soient des activités particulièrement impliquantes pour le jeune. C'est pas comme ça que ces centres éducatifs fermés ont tourné, puisqu'ils sont devenus de facto, bien souvent, des lieux de violence. Où on va concentrer une dizaine, une douzaine de jeunes, les plus abîmés, les plus déstructurés, avec parfois des problèmes psychiatriques. Et on a des équipes éducatives qui explosent dans ces établissements. Donc une idée de départ qui pouvait être intéressante, une escroquerie quand même au niveau du langage, puisqu'on parle de centres éducatifs fermés. Ces centres éducatifs fermés ne sont pas fermés, autant dire les choses clairement. Ce sont des centres éducatifs qui sont renforcés. Mais cette concentration, encore une fois, de jeunes particulièrement difficiles devient ingérable. Donc ce qu'il faudrait aujourd'hui et ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un vrai bilan qui soit fait de ces centres éducatifs fermés. Certains ont développé des projets qui peuvent être intéressants. Mais qu'on fasse enfin un bilan, qu'on arrête d'être dans des postures par rapport à ce type d'établissement et qu'on soit capable aujourd'hui de dire voilà ce que peuvent nous apporter ce type d'établissement. Et on a des exemples également dans d'autres pays, et quelles sont les limites de ces établissements? Est-ce qu'il faut les réserver à des jeunes délinquants? Est-ce qu'on pourrait pas non plus, dans des établissements renforcés, aussi envisager, on a d'autres jeunes qui se mettent en danger malgré eux, on a des jeunes filles qui se prostituent, on a des jeunes qui fuguent, qui sont dans la rue, pour lesquels on n'a aucun moyen de les protéger. Donc l'idée de concevoir des structures de protection renforcées pour des mineurs, ça c'est une idée intéressante. Mais ça supposerait qu'on remette à plat le concept, qu'on accepte d'en discuter de façon plus apaisée, et qu'ensuite voilà, il y ait des idées qui émergent pour qu'on puisse disposer d'un panel d'établissements éducatifs qui soient adaptés depuis les mesures de milieu ouvert jusqu'à des établissements avec un encadrement renforcé.
Parce que je vous entends là, Dominique Attias, comment on sort d'un centre éducatif fermé? J'ai l'impression qu'on en sort dans un état pire que lorsqu'on y est entré quand on est un gamin. Alors, de 14 ou 15 ans ou 16 ans.
La problématique des centres éducatifs fermés, c'est, comme vous dites très justement, c'est la sortie. Si l'éducateur de milieu ouvert, c'est-à-dire celui qui n'est pas dans l'établissement, qui risque de se retrouver à l'autre bout de la France, donc je vous rappelle le manque de personnel et je vous rappelle que pour traverser la France, c'est une journée de perdu pour l'éducateur. Si l'éducateur de milieu ouvert peut aller dans ce centre éducatif fermé, travailler avec les éducateurs qui sont dans le centre et qui ont un projet. On parle de projet, voilà. Peut-être que ce jeune, s'il a un projet de sortie structurée, pourra s'en sortir. Mais la problématique, c'est toujours le manque de moyens, c'est toujours le manque de projets, c'est que ce gamin ne ressorte, effectivement, ayant été dans ce bouillon de culture avec 12 autres, avec aucun projet de sortie élaboré, et ça n'aura servi strictement à rien. Il faut aussi connaître le prix. Le prix de journée dans un centre éducatif fermé,
allez-y,
c'est 600-650 euros par jour et par enfant. La détention, établissement pénitentiaire pour mineurs, 1500 euros par jour et par enfant. Pensons éducatif, pensons placement structuré, arrêtons de ne penser qu'enfermement de ces jeunes, sans compter la détention provisoire qui est un vrai scandale en France.
Alors, puisque vous parlez de détention provisoire, l'idée de la deuxième partie, de ce que j'ai compris de l'envie de réforme de Nicole Belloubet, c'est d'éviter justement qu'il y ait trop de détention provisoire, d'essayer de resserrer le temps pour ces jeunes. En fait, j'aimerais bien votre avis là-dessus. L'idée, de ce que j'ai compris moi, c'est une espèce de chose en deux temps, avec une déclaration de culpabilité d'abord pour les enfants et ensuite seulement penser à la peine. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça rend les choses plus faciles ou pas, cette idée de deux temps, en fait?
Alors, si vous voulez, à l'origine, on se disait pourquoi pas, à condition que les droits de la défense soient défendus. Sauf
parce que j'avais cru comprendre que c'était déjà une idée de Christiane Taubira.
C'était déjà dans les textes.
Absolument.
C'était déjà dans les textes. Sauf que nous avons reçu ce week-end le fameux projet dans son intégrale de Code de la justice mineure. Et là, excusez-moi, mais j'allais dire, les bras nous en sont tombés.
C'est-à-dire
que il faut que vous sachiez que la profession d'avocat était contre cette décision provisoire qui ne sert à rien. Il y a des quantités de pays dans lesquels ça n'existe pas. Madame Belloubet, et je crois elle est en Finlande, là-bas ça n'existe pas. Eh bien, ce nouveau projet, partout, il y a de la détention provisoire, partout, il y a même des sortes de comparution immédiate pour mineurs, c'est-à-dire que ça veut dire qu'avec de la détention à la clé, de nouveau, partout, on trouve de la détention. Donc, ça va pas le faire, comme on dit, ça va pas le faire. Les professionnels, en tout cas les avocats, sont extrêmement mécontents de ce qui se passe et de ce projet qui nous déçoit profondément. En tout cas, personnellement, je suis très déçue, parce qu'il n'est pas plus clair, il n'est pas plus lisible, loin de là. Alors, en ce qui concerne cette nouvelle procédure de déclaration de culpabilité, déjà, cette procédure, le jeune va passer entre 10 jours et 3 mois. 10 jours, ça veut dire quoi? Qu'on a le temps de rien préparer. Que ni la victime, ni le jeune n'a le temps de se préparer pour cette audience. Est-ce que c'est sérieux? C'est pas sérieux.
Votre avis là-dessus, vous, du côté des juges, Laurent Gébler?
De façon très, très pragmatique, hein. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a une espèce d'accélération du temps en début de procédure, avec notamment dans certaines grosses juridictions une politique de déferment quasiment systématique des mineurs. Donc déferment, c'est-à-dire que dès la sortie de la garde à vue, ils sont conduits devant le procureur et devant le juge des enfants avec des réquisitions, parfois d'emprisonnement, mais pas seulement. Donc on a une sorte d'accélération du temps au départ, et puis ensuite un engorgement qui se crée. Et des jeunes qui sont jugés un an, deux ans, trois ans après les faits. Donc ça c'est pas possible. C'est pas possible. Les jeunes ne s'y retrouvent pas dans ce système. Donc la proposition, le nouveau projet tel qu'il est conçu, dans une logique un peu différente, à savoir que dans un premier temps, très rapidement, interviendrait la déclaration de culpabilité et la juridiction pour mineurs statuerait immédiatement sur les demandes indemnitaires des victimes. Donc les victimes n'auraient déjà pas à attendre deux ans ou trois ans avant de pouvoir être indemnisées de leurs préjudices.
Mais on attendrait ensuite, pour la sanction du jeune, en fait.
Voilà. Et ensuite, pour la sanction, donc qui pourrait être une mesure éducative ou une peine, il y aurait cette période, je dirais, en quelque sorte, de mise à l'épreuve du jeune, avec un accompagnement, en théorie en tout cas, hein, de mesures éducatives. Et un procès qui intervient dans un deuxième temps, donc pour le jeune, où on pourrait éventuellement regrouper toutes les affaires concernant le même jeune, et la décision est prise à l'issue. Ce qu'on explique à un jeune, c'est qu'il est jugé en fonction de ce qu'il a commis, mais il est aussi jugé tout autant en fonction de ce qui va devenir.
Ouais, et alors, et c'est intéressant ce que vous dites, parce que quand les délais sont allongés, qu'est-ce qui reste dans la, on parle de très jeunes gens, qu'est-ce qui reste dans la tête d'un gamin de 15 ans quand on est en train de lui parler de quelque chose qu'il a commis quand il en avait 13? Je veux dire, est-ce que tout ça peut vraiment avoir un sens quand on est si jeune? Quand on parle d'adulte, c'est déjà beaucoup. Quand on parle de jeune, est-ce qu'on on peut ne pas être le même bonhomme à 15 ans, à 13 ans, non, Dominique Attias?
Alors, il y a quand même quelque chose qu'on oublie en permanence. C'est que lorsque un juge voit un jeune, ensuite, il y a des mesures qui sont prises et des services qui, pendant le temps probatoire, comme on dit, sont censés pouvoir s'occuper du jeune, comprendre pourquoi il a fait les actes, l'aider à se restructurer. Donc, ça n'est pas un temps, entre guillemets, mort. Ce que l'on vous dit, c'est que l'on vous dit que à partir du moment, une déclaration de culpabilité, vous savez, c'est grave. Ça entraîne des conséquences importantes. Il peut y avoir, vous êtes inscrit éventuellement dans des fichiers, votre empreinte génétique est prise, etc., etc.
Et ça disparaît à la majorité s'il se passe rien après?
Ça ne disparaît plus à la majorité. C'est fini, ça. C'était jusqu'en 2002, année fatidique. Terminée la disparition à la majorité, création des centres éducatifs fermés. Monsieur Perben a fait très très fort avec
cette
loi.
Donc ça veut dire que si on est condamné quand on est un gamin de 15 ans, on le traîne combien de temps?
Mais écoutez, c'est, pour le moment, tout dépend les actes que vous avez commis, mais si ce sont des actes de violence, vous pouvez être pendant 20 à 30 ans dans des fichiers pour le moment. Et oui.
Il y a une volée de questions que j'aimerais vous poser à tous les deux, comme ça les choses seront très claires. C'est vraiment une demande de chiffres. En fait, combien y a-t-il, j'ai oublié qui nous demandait cette question, peu importe, combien y a-t-il de mineurs incarcérés en ce moment? Est-ce qu'on a ce chiffre de mineurs, donc 13 ans et plus, incarcérés réellement?
Alors Laurent, je ne sais pas si tu as les derniers chiffres, mais en tout état de cause...
Le chiffre évolue, mais on est autour de 750. Autour de 750.
C'est-à-dire qu'il y en a qui sortent et qui rentrent tous les jours.
Il y a eu des pics au-delà, ça a été un peu moins, mais en moyenne, on tourne autour de 750 à 800 mineurs incarcérés qui sont en prison à l'instant T.
Est-ce que c'est un...
Et en détention provisoire pour plus de 80%, enfin 79 à 80%.
Oui, bien sûr, et les trois quarts d'entre eux sont en détention provisoire.
Donc pas jugés, donc présumés innocents.
Voilà, et quand on parle d'enfermement, on ne parle pas des centres éducatifs fermés. Qui ne sont pas comptabilisés dans la détention des mineurs. Et on ne compte pas non plus, c'est important, tous les jeunes adultes qui ont été condamnés pour des faits commis quand ils étaient mineurs, mais qui, du jour de leurs 18 ans, passent dans les quartiers majeurs.
Est-ce que ce chiffre, alors 750, parfois un peu plus, parfois un peu moins, est-ce qu'il est très haut par rapport à, je sais pas, il y a 3 ans, il y a 5 ans? Est-ce qu'on est toujours dans une fourchette assez similaire ou pas?
Non, il est plus haut, hein. Il est plus haut. Il est plus haut et on a pour un tiers des mineurs non accompagnés, c'est-à-dire des mineurs qui n'ont pas des parents à leur côté.
Il est plus haut parce qu'on incarcère plus volontiers aujourd'hui, je vais le dire comme ça, ou parce que faute de solution, le mineur après 13 ans peut se retrouver en prison. La raison pour laquelle ce chiffre est très haut, c'est quoi?
Moi, j'aurais tendance à dire que c'est parfois faute de solution, hélas.
Laurent Geblin, est-ce que vous diriez aussi que si ce chiffre est plus haut, c'est à cause de ça?
Une des raisons, l'absence de solution, mais l'autre raison massive, soyons clairs, c'est, dont a parlé Dominique Attias, ce sont la situation particulière des mineurs non accompagnés, qui, comme ils n'ont aucune garantie de représentation, sont surincarcérés par rapport aux autres.
Est-ce qu'on connaît aussi, vous avez sûrement ce chiffre, Laurent Geblin, le taux de récidive des enfants condamnés? C'est ce que nous demande Luc sur franceinter.fr. En gros, est-ce qu'un enfant de 13 ans qui a fait vraiment de la prison, c'est-à-dire incarcéré dans une prison pour mineurs, est-ce que son taux de réinsertion reste un taux relativement haut, ou est-ce qu'on est sûr de le retrouver chez les majeurs? Ou en tout cas, on a des chances de le retrouver chez les majeurs, je vais le dire comme ça plutôt.
Alors, parmi les mineurs qui sont... Il est évident que les taux de récidive, réitération, sont très importants après un passage en prison. Et après le passage en prison, on a à peu près les trois quarts des deux tiers, entre deux tiers et les trois quarts des jeunes qui sont passés en prison, qui continuent à passer à l'acte après cette incarcération.
J'ai envie de dire, c'est QFD, c'est terrible comme chiffre.
Bouillon de délinquance.
Ouais, c'est terrible comme chiffre. Est-ce qu'on a des chiffres pour les gamins qui sortent de centres fermés? Au contraire, est-ce qu'on se dit là, il y a un taux de récidive qui est moins important ou pas?
Non, maintenant, on se garde bien de nous les donner, ces chiffres. Donc ces chiffres-là, on aimerait bien, ça fait partie du débat, qui doit pouvoir être, et des chiffres qui doivent pouvoir être mis sur la table. Alors évidemment, le chiffre des réitérants va être important, il faut aussi être lucide.
Mais
à partir du moment où ce sont
pas.
Par définition, mais on ne l'a pas. Ouais. À partir du moment où ce sont par définition aussi des jeunes particulièrement réitérants ou récidivistes qui rentrent dans ces établissements, lorsque c'est le cas, il y a des chances de les retrouver à l'issue. Mais ça fait partie des chiffres tabous qu'on n'arrive pas à obtenir.
Que vous ne Pardon, allez-y.
Autre chose assez étrange, auparavant nous avions le chiffre des enfants incarcérés tous les mois. Et bien maintenant ça passe à tous les trimestres. Mm-hmm. Pourquoi ? On aimerait bien avoir la réponse.
Il y a cette question de Manuel qui n'est pas une question facile, qui nous demande que se passe-t-il lorsqu'un ado à 13 ans donc tue ou viole ou en tout cas commet donc un crime extrêmement haut et extrêmement grave. Comment ça se passe pour un gamin comme celui-là ? Laurent Gébler ?
Alors, il va déjà une instruction, un juge d'instruction va être saisi, s'il a plus de, ce mineur qui a plus de 13 ans, donc va faire l'objet d'une instruction, et aujourd'hui même en dessous de 13 ans, aujourd'hui il y a un mineur de 11 ans, 12 ans qui commet un crime, et ça peut arriver, fera l'objet d'une instruction criminelle devant un juge d'instruction. Donc une instruction qui va durer avec des expertises, avec éventuellement, s'il a plus de 13 ans, donc une détention provisoire, ou à défaut un placement qui pourrait être décidé par le juge d'instruction, et à l'issue de l'instruction, qui peut durer donc 6 mois, 1 an, 2 ans, ce mineur sera jugé. Si le juge d'instruction a estimé qu'il y avait des charges suffisantes contre lui, il sera jugé soit par le tribunal pour enfants s'il avait moins de 16 ans au moment des faits, soit par la cour d'assises des mineurs s'il était âgé de plus de 16 ans au moment des faits.
Dominique Attias, je disais tout à l'heure en introduction que cette fameuse ordonnance de 45 avait été révisée 39 fois. Je ne me rends pas compte. Est-ce que c'est beaucoup ? Est-ce que c'est finalement pas tant que ça ? Le sens de ma question, c'est est-ce qu'on tâtonne, en fait, depuis ce temps-là, avec la justice des mineurs ?
Vous savez, ce n'est pas une question de tâtonnement. C'est une question que, malheureusement, le problème des mineurs, entre guillemets, et des enfants, est devenu un sujet éminemment politique. Mmh. Et que nous sommes une société adolescente.
On l'a vu sur le fameux débat sur les responsabilités à 13 ans qui a subitement fait monter dans les tours rien en fait, honnêtement.
Pour rien et vraiment de manière irresponsable, si on peut parler d'irresponsabilité des adultes. Et que dès qu'il y a le moindre fait divers, les politiques s'en emparent et immédiatement, sans même réfléchir d'ailleurs, des lois sortent dans tous les sens. D'où j'allais dire un nombre de mesures qu'il faut peut-être au moins donner une certaine lisibilité, d'où toutes ces lois qui en permanence sont en définitive des lois politiques. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en général ces lois sortent juste avant des élections. Tiens donc.
Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on accuse la justice de laxisme, par exemple, c'est autour de la justice des mineurs au fond que ça tourne ? Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y avait finalement pas eu de réforme, ou peut-être que je me trompe, il n'y en avait pas eu finalement sous Christiane Taubira, si ?
Christiane Taubira voulait encore réformer l'ordonnance de 45 et ça ne s'est pas fait.
C'est ça.
Mais vous savez, ce qui m'avait frappé, c'est que l'Association des magistrats de la jeunesse fait un colloque annuel. Et lors d'un colloque, des magistrats étrangers, des juges des enfants étrangers étaient venus et ils nous ont regardés effarés. Effaré par la manière dont la France traite ses enfants et à quel point elle est sévère et à quel point nous enfermons nos enfants.
Pascal, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Pascal.
Moi j'aurais voulu savoir de quelle manière ce nouveau projet de loi, si j'ai bien compris, allait impacter les victimes elles-mêmes. Moi j'ai une fille qui a été violée en mai 2015 par un mineur. Elle était elle-même mineure. Et c'est toujours pas passé en jugement. Et pour le moment, l'agresseur est libre. Moi, je voulais avoir le point de vue pour les victimes.
Merci beaucoup, Pascal, pour ce témoignage. Qu'est-ce qu'on peut dire à Pascal, Dominique Attias ? Est-ce que accélérer pour, effectivement, les enfants qui se retrouvent dans des situations, oui. Est-ce qu'on peut accélérer aussi pour les victimes, de la même manière ?
Alors, le projet qui est proposé est un projet qui a pour objectif d'indemniser plus rapidement les victimes. Dans votre cas, madame, hélas, il s'agit d'un crime qui aurait été commis. Et un crime, ce sera une cour d'assises qui va juger l'éventuel auteur. Donc, cette procédure qui est proposée aujourd'hui n'est pas une procédure. En général, dans un cas pareil, il y a forcément un juge d'instruction qui est désigné, avec de nombreuses mesures d'investigation et autres à mener. Donc, la procédure qui est proposée aujourd'hui concerne plus les délits que des crimes, surtout lorsqu'il faut bien évidemment pouvoir écouter la victime, faire des expertises, etc. Donc le but est de toujours prendre en compte disons la souffrance des victimes, mais il est indispensable, si on veut être dans un état démocratique, de respecter le droit. Je ne connais pas votre situation, madame, et la situation de votre fille, et Dieu sait qu'elle est douloureuse, mais sachez que en tout cas, les juges d'instruction et les juges des enfants n'oublient jamais les victimes. Et sachez même, je vais vous donner quelque chose, lorsque vous êtes pour l'auteur et lorsque vous êtes la victime, même vous, avocat, vous n'êtes pas traité de la même façon, sans même que les juges ne s'en rendent compte d'ailleurs. En tout cas, les juges d'instruction, pas les juges des enfants, mais un juge d'instruction, lorsque vous êtes l'avocat de la victime, vous traite beaucoup moins bien. Vous êtes beaucoup mieux, pardon, que lorsque vous êtes l'avocat de l'auteur.
Là-dessus, Laurent Gébler, sur l'accélération aussi pour les victimes. Alors, on a bien compris, effectivement, évidemment, la différence entre crime et délit, ce qui change tout dans la procédure. On a bien compris ça. Mais est-ce qu'il y a, il y a quelques questions dans ce sens pour terminer. Est-ce que on peut aller aussi vers une accélération vis-à-vis aussi des victimes?
Alors pour les victimes, donc je vous expliquais qu'il y aurait une accélération par rapport à leur indemnisation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que de plus en plus, dans le cadre des mesures éducatives qui sont ordonnées, on essaye de développer ce qu'on appelle la mesure de réparation. Mmh. Et cette mesure de réparation, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour le jeune de se réhabiliter vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de ses parents, mais également vis-à-vis de la victime. Mmh. Donc, je crois que ce projet de loi, en soi, il devra être accompagné d'un véritable effort autour de ces mesures éducatives. Hein, et notamment la mesure de réparation qui pourrait devenir, je dirais, le pivot de la mesure, des mesures éducatives de la justice des mineurs, parce qu'elles impliquent les victimes, elles impliquent les parents, et ce sont des mesures qui sont particulièrement bien comprises. Alors, bien évidemment, je ne parle pas de la situation de
Pascal
votre
à l'instant, qui est très particulière, évidemment.
Malheureusement, malheureusement, ne rentrera pas dans ce cadre-là, vous l'avez bien compris. Mais l'idée, vraiment, c'est aussi, à travers ces mesures-là, et notamment la mesure de réparation, de donner la place à la victime. En tout cas, nous serons très vigilants pour que, au-delà du texte, parce que changer un texte, si on ne donne pas les moyens à l'éducatif de fonctionner, c'est un coup d'épée dans l'eau. Les meilleurs textes possibles, on n'y arrivera pas.
Merci beaucoup. La phase de consultation, en tout cas, elle est lancée. Ça nous donnera l'occasion de nous revoir et d'écouter à nouveau vos questions. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à nos amis à Bordeaux pour la liaison, votre liaison, Laurent Gébler. Merci à Dominique Attiassé, à vos nombreuses questions. Portez-vous bien.